Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditeurs. Aujourd'hui dans Je me souviens, je vous propose de rencontrer Antoine, aujourd'hui éducateur à la protection de l'enfance. Antoine, quand il avait 10 ans, a vécu un événement marquant qui a déterminé sa vie. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Ben, je vous demande de vous présenter.
Donc je m'appelle Antoine, je suis éducateur dans la protection de l'enfance.
Antoine, vous avez été plus jeune, vous avez eu 10 ans et ce jour-là, il vous est arrivé quelque chose qui a peut-être déterminé votre vie.
Oui, c'est ça. C'est une bascule dans le monde de l'environnement à travers la découverte d'un artiste, Robert Reinhardt, en fait, qui est suisse, qui habitait pas très très loin d'ici. Et sur ses croquis, ses croquis naturalistes, de plantes, d'animaux, de tous les êtres vivants en fait qui peut exister, de paysages aussi, ça a fait résonance chez moi en fait, une certaine sensibilité, un certain humanisme qui ressort de tout ça.
Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial ces croquis ?
La faculté à capter en fait l'instant présent, le maintenant, et de pouvoir faire attention à des petits détails, un petit insecte, des petites choses qui font que ça, il y a une ouverture en fait, un regard différent sur ce qui se met autour.
Est-ce qu'on peut dire que c'était des croquis ressemblants ou c'était autre chose ?
Ah, c'est vraiment l'instant, le moment et on dénature pas ce qu'on voit. S'il y a une brindille devant, et ben on laisse la brindille devant. C'est vraiment un côté je prends cet instant-là parce que c'est celui que j'ai vu et j'y touche pas, comme si on le figeait en fait dans le temps.
C'est-à-dire tout est intact.
Tout est tel quel, naturel, comme la nature le présente.
Et alors, qu'est-ce que ça vous a dit, cette expérience, par rapport à votre itinéraire de vie ensuite ?
Pour moi, ça a été assez utile. Hein. J'étais déjà un petit peu sensible, on va dire, aux êtres vivants, à ce qu'il pouvait y avoir autour de moi, à l'environnement. Mais cette rencontre, elle m'a vraiment fait basculer il faut y faire attention et en fait, il faut que je le connaisse. Cette chose-là, ce qui m'a servi après, plus tard, dans ma vie d'adulte.
C'est-à-dire que vous êtes senti vivant dans le monde vivant, peut-on dire ?
Senti à me remettre à une place qui est peut-être plus la nôtre que celle dans laquelle on est aujourd'hui. L'être humain reste un animal, et aujourd'hui on est quand même un peu loin de cet animal-là, de ce qu'on était, de notre place de prédateur ou... Qu'on peut avoir dans la nature.
Alors, quand vous allez dans la nature, vous êtes comment ? Dans quelle attitude ? Antoine ?
Je suis bien. C'est-à-dire que, non, en fait, j'essaye d'aller rechercher ce qu'on a un peu perdu, quoi. Faire attention aux odeurs, faire attention aux sons, essayer de redévelopper un peu ses sens, essayer de voir par d'autres sens que la vue, quoi.
C'est-à-dire, est-ce que vous ressentez des choses invisibles et qui sont là ?
Oui. Ça peut paraître bizarre quand on dit comme ça. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ce sentiment d'être au milieu et de voir à travers les traces, à travers les odeurs, de savoir que tel ou tel animal est là. Je ne sais pas, les cerfs ou les sangliers ont une odeur particulière, par exemple. Et savoir qu'ils sont là, où ils sont passés par là, ils ne sont pas très loin, mais de ne pas les voir. Mais d'avoir ce sentiment de, par contre, eux, ils me voient.
Eux, ils vous voient.
C'est ça, le sentiment d'être observé. D'être observé, et puis d'un seul coup, de le voir sortir de derrière un arbre, et de lui s'interroger en disant, mais toi, tu n'es vraiment pas à ta place en tant qu'humain, ta place, elle n'est pas là.
Donc ça remet un petit peu en question la façon dont l'homme regarde en général la nature.
Même pour un peu plus loin, l'homme dont il regarde, enfin le regard de l'homme en fait. il a vachement changé. Aujourd'hui, tout doit aller vite. On consomme vite, on va vite, tout est dans l'éphémère. Sauf que l'éphémère, dans la nature, il vit pas longtemps. C'est le cas de l'une. Mais c'est ça, en fait, ça permet d'avoir un autre regard, de porter les choses différemment, de pouvoir se rassurer aussi. Hein. Dès qu'on connaît en fait ce qui se passe autour de nous, c'est rassurant. On peut mettre des mots dessus, on peut mettre des noms, on peut mettre des attitudes.
Ça demande peut-être une attitude aussi, parce que vous parlez d'un monde qui bouge, où on n'a pas le temps de regarder, de voir, il faut peut-être s'arrêter.
Bah oui, ce serait bien de juste prendre. En fait, c'est juste prendre le temps de vivre. Si aujourd'hui on peut, enfin c'est compliqué hein, de dire ça, mais si on peut faire de temps en temps en fait ce va-et-vient entre le monde actif dans lequel on est et qui est obligé, et pouvoir faire un moment en pause et pouvoir se remettre en tant que humain animal, je pense que ça peut faire que du bien.
Alors, vous aviez un peu plus de 20 ans, ce va-et-vient, vous l'avez fait réellement, vous l'avez vécu.
C'est ça, c'est par nécessité entre mes études dans le sud de la France et la possibilité d'avoir un stage dans les Hautes-Alpes. Étudiant, on n'a pas un salaire énorme, hein, donc deux logements, c'est pas possible. Et du coup, ça a été une occasion de franchir le cap et de se dire... Ok, je garde un pied dans la société parce qu'il est obligatoire. Et de l'autre côté, je vais aller chercher ce que je pense être utile et fondamental pour l'être humain.
Concrètement, comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là? Vous aviez un stage à faire, en dehors de votre lieu d'études, et donc vous n'aviez pas de logement et vous ne pouviez pas vous payer un logement autre.
C'est
donc,
ça.
Et donc vous êtes allé...
Je suis allé dans la forêt. C'est ça, lequel, voilà. Franchir le cap, se remettre dans la forêt, une tente et...
Vous étiez seul ?
Non, j'avais mon chien à l'époque. Le chien, pourquoi ? Parce que dans la forêt, donc surtout là où il y a quand même pas mal de prédateurs, le chien, il a des sens qui sont nettement plus développés que nous. Donc elle me permettait d'avoir un odorat beaucoup plus fin, une nuit plus fine, une vue dans la nuit beaucoup plus perçante. Et après, c'est la relation concrète avec l'animal. C'est-à-dire que de par ses comportements, je pouvais deviner un prédateur, deviner une proie, ou ces choses-là, en fait.
Donc vous étiez au milieu de la nature, vous vous sentiez observé, vous arriviez aussi à observer à travers le chien et à sentir ?
Il y a des choses où c'est ça. Le chien, en fait, permet de prévenir ou de pressentir. Et après, c'est le sentiment de... en fait, je suis qu'un petit humain dans ce monde-là. Donc, plus souvent, le sentiment d'être observé que d'avoir la chance de pouvoir observer. Oui.
Quelle était la saison quand vous étiez dans la forêt ?
J'ai passé l'hiver, d'octobre à mars, en gros.
Donc, c'était quand même des conditions assez rudes ?
Rude, froide, donc d'où le chien qui fait radiateur. Rude, froide, mais après c'est quelque chose de volontaire, donc il n'y a pas à se plaindre. Il y avait quelque part une volonté de moi de dire, je me mets dans cette situation-là aussi.
Alors, vous aviez un pied dans la civilisation parce que vous alliez à vos cours. Comment ça se passait enfin vos journées ?
Les journées c'était du coup travail la journée. Et puis après, en tant qu'éducateur, on a des horaires qui peuvent être décalés. Donc on peut être tôt le matin ou tard le soir ou dans la journée. Donc, ce qui permettait d'avoir quand même ce pied dans la réalité et d'être au chaud, du moins pendant le temps de travail, de pouvoir manger aussi pendant ce temps de travail. Et après, sur les week-ends ou sur le reste du temps, de pouvoir replonger dans la nature complètement.
Donc qu'est-ce que vous y faisiez concrètement dans cette nature ?
Beaucoup d'observations en fait. C'est ça. Moi, je suis sensible à l'environnement, côté naturaliste qui est assez développé. Donc après, il y a l'observation, l'écoute, et puis après, le manger.
Le manger.
Il faut bien manger. Donc voilà, c'est s'autoriser à prendre les fruits qu'on trouve, à prendre les champignons qu'on trouve, et plus.
une sorte de Robinson l'hiver.
C'est ça, une forme de... Oui, oui, essayer de se remettre au maximum dans ce qu'on a pu être.
Et donc, Antoine, est-ce que vous avez toujours cette perception d'être dans cette vie double, à la fois dans la nature et parmi les hommes, ou est-ce que c'est la même chose ?
Non, c'est quand même deux mondes qui sont assez différents. Après, je pense que sur chaque chose, il y a des bonnes choses à tirer. Le tout est de trouver le bon compromis qui permette d'influencer l'un avec l'autre. Et de pouvoir l'utiliser, de pouvoir en tirer parti. Moi, aujourd'hui, dans mon travail, c'est des choses que j'utilise, en fait. Je travaille avec des jeunes, des personnes qui sont en décalé ou qui n'ont pas forcément les bons codes. Mais j'ai envie de dire, c'est presque pas très grave à partir du moment où on peut s'en rendre compte, à partir du moment où on peut l'expliquer et qu'on en a conscience. Et après, c'est jouer entre ce décalage qu'on a et la faculté à pouvoir s'imprégner et se mettre dans le monde qui est demandé, quoi.
C'est-à-dire qu'au départ, est-ce que ces jeunes ne sont pas déconnectés ? Être déconnecté des hommes, ce n'est pas être en même temps déconnecté de la nature, en fait ? Est-ce qu'il y a un rapport ?
Oui, l'homme est un être humain, un être vivant. Donc si on est déconnecté de l'être vivant, on ne peut pas forcément être connecté avec ce qu'il y a autour. Ça me surprendrait en fait que que ce soit faisable. Si on n'est pas connecté avec ce qui nous entoure, si on est seul, je pense qu'au bout d'un moment on tourne en rond. C'est juste pas possible. C'est jongler en fait entre de quoi on est fait en tant qu'être humain primaire et aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue. Les extrêmes sont jamais bons. Donc il y a un compromis à trouver dans tout ça qui permet de fixer, de pouvoir profiter en fait des choses qu'on vit tous les jours.
Et donc là, vous avez des expériences avec les adolescents pendant lesquels toute cette expérience que vous avez vécue vous sert.
Ouais. oui, cette expérience. En fait, c'est des outils qui peuvent être assez simples. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser par exemple, on va à travers des choses toutes bêtes comme le bois, qui est des choses. On va développer le toucher, les odeurs, faire attention aux odeurs. Chaque bois a une odeur particulière, en fait. Si on n'y fait pas attention, on s'en rend pas compte. Mais dès qu'on se fait attention, en fait, ça permet d'ouvrir quelque chose, d'avoir accès à des mots et verbaliser, en fait, tout simplement, pouvoir expliquer pourquoi ça. Et la réponse, c'est souvent la question, c'est pourquoi ou comment. Il y a une réponse, en fait, à chaque fois.
Donc développer une acuité au monde qui permet à ces enfants de revenir dans le monde.
C'est ça, essayer
d'être dans le monde plutôt que d'y revenir.
Ouais, c'est ça. C'est essayer de se poser la question en se disant « Ah oui ». D'ouvrir un peu le champ des possibles. Se dire « Tout est... Ah oui, je n'avais pas fait attention à ça ». Et puis que petit à petit, on y fasse attention. On amène à prêter... prêter l'attention à ce qui entoure, à ce qui touche, à ce qui sente et ce qu'il y a autour d'eux, en fait, tout simplement.
Eh bien, merci de nous avoir prêté votre attention, Antoine. Et je pense que cette attention a été partagée par les auditeurs. Je vous dis à très bientôt.
Amis auditeurs, l'émission est terminée. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique de Je me souviens le mois prochain. À très bientôt. Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.